Et donc, sans transition, on va passer à la première table ronde. Donc, je vais appeler les participants à cette table ronde que j'invite à monter sur la scène. On va commencer par Isabelle Mérian, qui est directrice générale de la FAGER, qui est la Fédération des associations, groupements, établissements pour la réadaptation de personnes en situation de handicap, une fédération qui est très semblable dans son organisation avec la FISAF. C'est un réseau de 60 associations et plus de 140 établissements, qui est également co-animatrice de la commission emploi-formation du CNCPH. J'appelle également Éric Chenu, président de Droit au Savoir, membre du bureau national de la MGN, Jean-Marie Jacquot, directeur à la Fondation Paul Bouvier d'établissements et services. Jean-Marie, je t'ai vu tout à l'heure, donc tu peux monter. Et Marc Modinet, donc, qui aujourd'hui est délégué général à l'UNALG, Union nationale des associations laïques gestionnaires, qui a été longtemps directeur du CTNRHI, Centre technique national de recherche sur les handicaps et les inadaptations, et qui est également membre du conseil scientifique de la FISAF et directeur du master gestion et politique du handicap à Sciences Po. Voilà, merci beaucoup. Voilà, ils sont tous là, donc je... Ça marche. Donc, merci d'être avec moi. On va commencer cette première table ronde sur cette question ô combien importante de l'émergence du projet professionnel du travail d'orientation. Alors, l'ambition du Congrès, vous l'avez déjà entendu à plusieurs reprises, ce n'est pas de faire, on va essayer de ne pas faire encore des grands discours théoriques, bien qu'ils soient nécessaires, sur la meilleure manière d'insérer, de former, etc. Mais c'est à partir de cette discussion, de cette réflexion théorique, d'essayer, avec l'expertise qui est la nôtre, de proposer modestement de petites choses qui soient réalisables et conformes, je dirais, à nos moyens pour faire progresser un tout petit peu cette situation. Alors j'ai envie d'emblée de donner la parole à des acteurs de terrain. Jean-Marie, qui a un passé d'enseignant, donc de pédagogue, qui est aujourd'hui directeur d'établissement et structure, qui est un développeur de services, un homme donc qui se collecte avec la réalité, et puis Isabelle Mérian, et poser cette question naïve, stupide. Alors on a un savoir-faire aujourd'hui, on a un savoir-faire théorique, et puis à chaque fois qu'il y a une confrontation avec les terrains, les difficultés rencontrées par tel jeune ou telle personne, eh ben, on a l'impression que le système se grippe un petit peu. Alors Jean-Marie, est-ce que tu partages, et si oui, pourquoi? Et donc quelles pourraient être les préconisations que tu pourrais faire sur ce sujet de l'émergence du projet et le travail d'orientation?
Oui, merci, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si je vais répondre directement, mais je vais répondre de ma place, de ce que je sais faire et vous dire ce que je fais et dans quel esprit on le fait. Pour compléter le propos de Maurice, pour donner un repérage, nous accompagnons sur le Languedoc-Roussillon 150 jeunes, des jeunes sourds et puis des jeunes qui ont des problèmes de langage. Et chaque année, bon an, mal an, nous signons 10 à 12% de contrats d'apprentissage. Voilà, pour situer, hein. Donc entre 15 et 20 chaque année. On a parlé de contexte et je pense que c'est important de le dire parce que on connaît souvent le sud de la France comme un pays facile. Or, c'est pas un pays facile, c'est une région pauvre. Le Gard est un des départements les plus en difficulté en France où le taux de chômage est très important. Donc, ce que je veux dire, c'est que le contexte dans lequel on travaille n'est pas un contexte simple. Alors, notre action, elle repose sur trois convictions. Puisque le thème de cette table ronde est l'émergence du projet professionnel et le travail d'orientation. Donc l'action que nous menons, elle repose sur trois convictions. La première, c'est que réussir une insertion, ça commence très très en amont. Pourquoi ? Parce qu'on réussit son insertion, parce qu'on on montre qu'on est capable de faire quelque chose. On montre de la motivation, on montre de l'intérêt pour ce métier, ce travail que l'on fait. Et si on veut s'assurer de cela, il faut l'avoir bien choisi. Donc il faut bien en amont amener les jeunes, puisque c'est d'eux dont on parle, à se construire cette motivation, cet intérêt. Première entrée, donc travailler d'abord sur la motivation. parce que c'est elle qui donnera la réussite. La seconde conviction forte, c'est créer des synergies. Alors, synergie entre les principaux acteurs, donc le jeune lui-même, bien sûr, mais aussi, et ô combien, ses parents, sa famille. On doit les considérer comme des éléments extrêmement importants de ce que va mettre en œuvre. Et puis, l'entreprise, bien sûr, l'école. Et entre ces individus, entre ces entités, il faut créer cette synergie. Deuxième conviction. La troisième, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'hésitation. L'hésitation fait partie de la démarche. Il faut même l'installer comme une méthode. Accepter d'hésiter, accepter de ne pas réussir d'emblée, accepter de recommencer. Donc trois entrées. Une insertion réussie basée sur la motivation, qui commence tôt, une synergie entre les acteurs et le temps d'hésitation. Et puis, il y a trois conditions. Il y a trois conditions à réussir ce projet. Et ces conditions, je les présenterai ainsi. D'abord, un, et on l'a dit dans le préambule, il faut un accompagnement. Il faut un accompagnement, et je le répéterai des dizaines de fois. Ça veut dire tout ce que nous a tout à l'heure énoncé Maurice. On en reparlera un peu plus tard. Accompagner pour rassurer, pour encourager, pour informer, pour soutenir, accompagner les jeunes, accompagner les parents, accompagner les entreprises. Deuxième levier, c'est le levier du mouvement, je vais dire. Il faut se déplacer. Quand on regarde les études sur les difficultés d'insertion des personnes handicapées, qu'elles soient sociales ou professionnelles, on se rend compte très souvent que ça achoppe, non pas sur le niveau de compétence, ça peut l'être, hein, non pas sur la motivation, mais ça achoppe très souvent sur le fait que on ne peut pas, ou on ne sait pas se déplacer. On ne sait pas aller vers. Ça paraît tout à fait évident. Or, savoir aller d'un point à un autre, c'est déterminant pour s'insérer quelque part. Donc, deuxième levier, travailler l'autonomie. Et le troisième, ça va faire écho à ceux qui sont comme moi d'anciens adhérents de la FISAF. Il faut travailler en milieu ouvert, c'est-à-dire dans un milieu qui favorisera les expériences multiples, qui favorisera les confrontations, qui favorisera le développement d'une compétence. Accompagner, se déplacer et être dans un lieu ouvert. Et puis il y a une condition, je vais dire, essentielle à tout cela, c'est qu'il nous faut, pour pouvoir réaliser cela, et là je rejoins peut-être le propos de Maurice introductif, il nous faut nous appuyer sur des professionnels qualifiés. Alors qu'est-ce que c'est cette qualification? J'ai essayé de la décrire, donc c'est un sens aigu de la relation, une capacité à entrer en relation avec des milieux différents, on sait ô combien, le milieu d'entreprise, c'est pas le milieu de l'établissement spécialisé, c'est pas le milieu du secteur social. Il faut des professionnels qui soient au fait, capables de connaître ces faits, capables de connaître les dispositifs, au fait aussi du handicap, d'être capable d'en parler, être capable d'en parler bien, être capable d'en parler ailleurs que dans sa sphère. Et puis des professionnels capables de comprendre aussi les exigences de l'entreprise. Il faut ces professionnels qualifiés. Et un professionnel qualifié, ça ne se fait pas en quelques années. C'est une compétence importante et il nous faut pouvoir être assurés de les conserver parmi nous. Voilà, en guise d'introduction, je voudrais me limiter à cela, si tu veux bien, Maurice, hein, c'est-à-dire à la fois dire sur les convictions sur lesquelles repose notre expérience, puis ce qui nous paraît, nous, les éléments de levier essentiels pour pouvoir le réussir.
En tout cas, si on entend bien et si j'ai bien compris ton propos, on voit là quand même se dessiner la culture de notre secteur, une culture d'accompagnement sur la durée, une culture qui allie certes un métier et des connaissances théoriques quand même à des postures professionnelles qui vont bien au-delà de la qualification professionnelle, donc un savoir-être qui se construit dans le temps. Et on a quand même l'impression que ces choses-là aujourd'hui sont de plus en plus difficiles à obtenir. Donc je me tourne vers Isabelle pour lui demander si elle partage ce système, permets-moi de le qualifier d'idéal décrit par Jean-Marie, parce que on est dans l'idéalité et non dans la confrontation avec la réalité en fait.
Oui, bonjour à tous. Oui, alors donc la question c'est de savoir où ça coince, où ça grippe. Juste avant peut-être un petit mot de quel terrain je parle, parce que tu disais qu'on était les deux représentatifs du terrain.
Donc chacun... Alors, excuse-moi, on se connaît tous très bien, donc on ne fait pas comme à la télé, on se tutoie. Hein. Donc c'est, excusez-nous, mais c'est comme ça qu'on fait. Hein.
Bon. C'est pas grave.
Non.
Donc mon terrain, c'est plutôt celui des adultes, en reconversion professionnelle, donc au niveau de la Fédération de la Fagère. En gros, c'est à peu près 140 établissements et services qui sont principalement donc pour la reconversion d'adultes devenus handicapés au cours de la vie. Et dans ces établissements et services, là on est sur la table ronde sur l'orientation, on a des établissements de pré-orientation qui travaillent plus particulièrement, des établissements de formation qualifiante, on est plus connu sur ce secteur-là, et de préparation à la formation et à l'emploi. Un point sur lequel une petite précision que je voulais donner, principalement les établissements de la Fagère sont des structures généralistes, donc au sens où on accueille, alors que des travailleurs handicapés, mais j'allais dire entre guillemets, n'importe quel travailleur handicapé, quelle que soit l'origine du problème de santé. Pour autant, on a quelques établissements spécialistes, entre guillemets, enfin certains établissements spécialisés dans la déficience visuelle, en qualification. Et là, tout récemment, enfin quand je dis tout récemment, c'est depuis 2 ans, certains établissements ont voulu répondre au niveau de la préorientation, donc par rapport à nos sujets de la table ronde sur l'orientation professionnelle, en ouvrant une préorientation très spécifique et adaptée aux personnes déficientes visuelles à Vertou dans la région de Nantes. Et donc ça c'était début 2010, et puis une préorientation qui va se présenter plus précisément dans un des ateliers, ouverte aux personnes sourdes en région parisienne à Coubert. Donc il y a une petite dialectique entre généraliste pour travailleurs handicapés et plus spécialiste par rapport à des problématiques particulières. Certains travailleurs handicapés disent je veux aller en milieu ordinaire, et ce qu'ils appellent le milieu ordinaire pour un déficient visuel, c'est d'être dans un CRP où il y a des non-déficients visuel. Voilà, c'est bon, ça c'était sur le terrain. Alors où c'est que ça coince, puisque c'était la question posée concernant l'émergence de projets professionnels. Alors d'abord, peut-être du point de vue des plus global en termes de politique publique, on parle souvent de priorité à l'emploi. On arrive parfois à traiter de la question de la formation, mais comme si c'était donné. Enfin, on parle de l'aval, le placement, dans le meilleur des cas, on dit les personnes ne sont pas formées, il faudrait qu'elles soient formées. C'est bien, mais le début, c'est de pourquoi, pour faire quoi.
Alors, hier, c'était un constat absolument frappant quand on a installé le club partenaire. Quasiment la totalité des entreprises présentes, même des niveaux nationaux, puisqu'il y avait des représentants d'entreprises nationales, disaient « mais notre souci, c'est que le niveau de qualification est bas ». Donc, ils condamnaient un état de fait, mais il est bas, pourquoi ?
Alors, effectivement, ça, c'est un constat un petit peu partagé, ou en tout cas, un niveau de formation qui est un peu en décalage avec les exigences des entreprises, dirons-nous en termes, on se forme pas comme ça, ça tombe pas du ciel, il faut que ça corresponde au projet de la personne, aux besoins des entreprises, à la réalité du marché du travail, ça fait beaucoup d'ingrédients.
Et ça, c'est valable pour tout le monde.
Ça, c'est tout à fait valable pour tout le monde, pour tout un chacun, c'est pas du tout spécifique aux personnes handicapées, mais ça vaut aussi pour elles. Et l'idée, c'est que, pour que ça se passe bien, que ce soit pertinent, il faut que ça prenne sens pour la personne, et donc ça se travaille. Enfin, l'émergence de projets professionnels, c'est pas quelque chose qui va tomber, c'est quelque chose qui va se travailler. Ça vaut pour tout le monde, hein. C'est pas effectivement. Il y a juste des petites particularités quelquefois quand il y a des situations de handicap et ça va gripper, mais pour d'autres ça grippera ailleurs. Et l'idée, c'est que c'est pas donné et que ça se travaille. Enfin, faut vraiment un temps. Donc, je partage complètement ce qui a été dit par. Monsieur Jacquot, Jean-Marie, au début, il parlait plus pour les jeunes, mais tous les points qu'il a abordés, je partage complètement. La question, c'est que du coup, il faut du temps. Et pour faire émerger un projet professionnel, par exemple, entre autres choses, on a envie de faire quoi? Alors, ça vaut aussi bien pour les jeunes. On a envie de faire quoi? C'est quoi les métiers qui existent? Donc, déjà, ne serait-ce que de s'informer sur les métiers. On a parfois des représentations. Ça peut prendre un petit peu de temps. C'est pas gagné. Pour les jeunes qui sont, par exemple, lycéens, comment on s'informe sur les métiers? Bon, un lycéen qui soit valide, pas valide, déficient visuel, déficient rien du tout, il n'a pas forcément une idée des métiers. Donc, ça, il existe des dispositifs ouverts à tous. C'est bien d'y avoir accès. Après, plus concrètement, en termes d'information, ça vaut le coup d'aller voir sur le terrain. On a envisagé un métier, on peut faire un stage en entreprise, ne serait-ce que d'observation, pour regarder concrètement le métier s'exerce comment. Là, c'est pareil, ça vaut pour tout le monde, mais il faut prendre le temps. Par exemple, si on prend le cas des écoles de commerce, qui sont émettent le gros du boulot qu'elles font, c'est tout le projet professionnel du jeune. Ça peut mettre 3-4 ans. Donc, si ça vaut pour des jeunes qui vont peut-être s'en sortir à Bac+5 de mettre 3-4 ans sur travailler précisément son projet professionnel, on voit pas pourquoi ça vaudrait pas, enfin, cette question de temps et d'aller de retour. Vous parliez tout à l'heure d'avoir droit à hésiter. Voilà, donc enfin, il faut aller voir un petit peu plus précisément
Je me fais exprès l'avocat du diable, mais est-ce qu'on n'est pas trop coucounant dans notre secteur par rapport à ces publics? Parce qu'il y a des personnes, le témoignage qu'on aura dans les ateliers montre quand même qu'il y a des personnes qui, sans aucun accompagnement spécifique, réussissent dans la vie, réussissent à s'insérer, etc. Donc, pourquoi on a l'impression qu'il y a cette chape de plomb un peu sur la question sur cette question-là?
Si on est coucounant, oui, on peut le dire, je ne sais pas. Enfin, à mon avis, c'est, il n'y a pas de situation globale, c'est un petit peu au cas par cas. Mm-hmm. Il y a peut-être des... sur l'émergence de projets professionnels, j'ai pas l'impression que dans le pays en général on soit coucounant. Je trouve que, enfin, moi j'ai plutôt l'impression qu'on met pas forcément les moyens dessus. La loi de 2009 par exemple, qui est sur le droit à la formation et à l'orientation tout au long de la vie. C'est intéressant parce que justement par rapport à la question que je posais, déjà prendre le temps de l'orientation, il y a une loi qui est sortie il y a pas longtemps, il y a 2 ans, qui crée le droit à l'orientation et le droit à l'information. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, on peut dire tiens c'est bien, c'est créé pour tout le monde.
Donc il y a
un service public d'orientation qui
droit,
se met en place.
Bien sûr.
Donc un service public d'orientation qui se met en place, en soi c'est intéressant. Ce serait intéressant d'aller voir les acteurs qui le mettent en place. Dans la loi, il n'y a pas un seul mot sur les personnes handicapées. Là. Donc de ce côté-là, pas de cocooning. En revanche, il est ouvert à tous, évidemment. Donc a priori ouvert...
Et obligation de rendre l'information accessible. Aujourd'hui,
voilà.
C'est une obligation.
Parce que effectivement, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut s'informer sur les métiers, aller voir la réalité de son exercice dans l'entreprise. Ensuite, se dire, tiens, ce métier, il peut m'intéresser, donc il faudrait que je me forme. Regardez ce qui existe en termes d'offres de formation. Ça n'a rien d'original, tout ça. Sauf que quand on est en situation de handicap, l'offre de formation n'est pas toujours adaptée aux personnes. L'information sur les métiers
donc,
n'est pas sur des supports accessibles.
Sans déborder, on comprend bien que sans déborder sur les tables rondes qui vont suivre, parce qu'on va traiter toute la séquence, je dirais, de ce parcours. On se rend bien compte que il y a des dispositifs de droit commun qui ont obligation à informer, mais il y a quand même un tout petit peu de raté à ce niveau-là. On est sur, je dirais, une connaissance des secteurs professionnels, et là aussi, on a peut-être des difficultés à développer ces connaissances. Et on est surtout dans des dispositifs qui de droit commun certainement, mais qui apparemment ne sont pas quand même complètement accessibles.
Certainement, et je pense que même dans les dispositifs spécialisés, par exemple dans le secteur dans lequel je travaille au niveau des CRP, il ne me semble pas qu'au niveau, que ce soit de la formation ou l'orientation, pour certaines situations de handicap, je pense au handicap visuel ou sensoriel, on soit forcément très accessible. Enfin, à mon avis, il y a des progrès à faire en termes d'adaptation.
Ça, alors, c'est... Moi,
peut-être
j'ai
un dernier
de...
point
oui,
sur l'histoire du cocooning, là. je me disais que, quand même, on l'a remarqué, enfin, les personnes en situation de handicap ne sont pas forcément demandeuses de formation, donc encore moins d'orientation. Et qu'elles ne s'autorisent pas toujours à se dire que la formation, ça pourrait être pour elles, et donc à réclamer. Il me semble qu'il y a besoin d'accompagnement, quand même. Moi, je rejoins le propos du début. Alors, est-ce qu'il y en a trop? Je ne sais pas. Mais à mon avis, il y a quand même des besoins.
Alors, j'ai envie de demander au président de Droit au Savoir, qui est un collectif qui réunit quand même plus de 40 associations, dont fait partie la FISAF. Quel est ton sentiment, Eric, sur cette question-là?
Sur la question du cocooning, je rejoins assez Isabelle Merian. Je crois que la difficulté dans laquelle on est, on l'a vu parce qu'il y a des ruptures dans les cursus de formation. En fin de collège, en fin de lycée, on s'aperçoit quand on fait des suivis de cohorte qu'un nombre important d'élèves en situation de handicap ne poursuivent pas le cursus. Alors certains ne poursuivent pas parce qu'ils n'en ont pas les capacités, les potentialités, mais beaucoup ne poursuivent pas parce qu'ils s'auto-censurent. Alors, ou eux-mêmes, ou quelquefois un petit peu les familles, parce qu'ils ne sont pas suffisamment incités, et surtout parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés des possibilités qui existent, et notamment des possibilités d'accompagnement, des possibilités de mise en accessibilité de la pédagogie, de l'accès au savoir, et puis de l'ensemble des accompagnements à la vie quotidienne. C'est pour ça, notamment au niveau de droit au savoir, qu'on a développé une base de données en complément du service public d'orientation pour expliciter l'ensemble des dispositifs en capacité d'aider les jeunes en situation de handicap en formation, bien d'avoir tous les accompagnements à la vie quotidienne dont ils ont besoin pour pouvoir aller dans une autre ville universitaire de formation que la ville qu'ils connaissent si leur projet les conduit à cela. Et ce besoin d'accès à l'information est absolument essentiel si on ne veut pas que ces jeunes continuent à s'auto-censurer. On l'a vu, on a pris une initiative avec la Mutuelle des étudiants et la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, la MGEN, il y a 4 ans maintenant, en 2007, la première édition, des initiatives qu'on a appelées « Handicap et enseignement supérieur, c'est possible », pour inciter les lycéens à oser. Se dire, bah tiens, pourquoi pas moi, pourquoi est-ce que je n'irai pas. Lors de ces initiatives, on présentait simplement le dispositif d'accompagnement, comment ça se passait dans l'enseignement supérieur, tout simplement parce que l'organisation ne se fait pas du tout comme en collège et en lycée. Et on a surtout fait en sorte que, outre les instances universitaires, rectorales, parce que c'est important que l'institution s'engage et montre le volontarisme aussi d'accompagnement, on a souhaité que des étudiants en situation de handicap eux-mêmes viennent témoigner, pour qu'il y ait un petit peu une émulation par les pairs et qu'un effet miroir puisse un petit peu jouer et inciter ces lycéens à y aller. Et pour moi, la vraie victoire, c'est cette année, en janvier, quand on a fait pour on a développé ces actions sur une quinzaine d'académies et sur Nancy, puisqu'on avait commencé là-bas la première année, c'était la 4e édition et en tribune, il y avait 3 étudiants de licence qui étaient là et qui témoignaient en disant que 4 ans plus tôt, ils étaient en terminale, ils étaient dans la salle et que s'il n'y avait pas eu cette initiative, ils n'auraient pas osé y aller. Donc, oui. À tous les dispositifs de droit commun. Oui, je rejoins ce que tu disais, Maurice, tout à l'heure sur la société inclusive. Oui, à la société inclusive, mais encore faudrait-il que les dispositifs de droit commun aient quand même les capacités, les compétences, les expertises pour réellement accompagner les jeunes en situation de handicap en ce qui nous concerne ou les personnes en situation de handicap tout au long de la vie pour leur donner la capacité d'avoir un droit effectif à la formation et à l'emploi.
Alors, je me tourne un petit peu vers le chercheur que tu es et avec l'expérience de recherche qui est la tienne à la fois au CTN, aujourd'hui sur le master au Sciences Po et pour poser cette question, quelle est dans la description qu'on vient de faire, quels pourraient être les 3-4 modèles à proposer pour permettre effectivement qu'il y ait cette réalité d'une société qui soit réellement inclusive à ce niveau-là. Puisqu'on a beaucoup entendu parler de motivation, de faire naître la motivation, on a beaucoup entendu parler d'information, de partager l'information, et je persiste, il y a un sentiment quand même, bon, on parlera des réseaux tout au long de ce congrès, mais on a quand même l'impression qu'on a du mal à développer cet ensemble de connaissances générales du système permettant à tous les acteurs de se retrouver dans ces dispositifs qui existent pourtant.
Ta question n'est pas facile. Je vais essayer d'y répondre de ma place, simplement, sans vouloir généraliser mon propos. La question de l'orientation, la question de l'accompagnement, c'est des questions qui vont être débattues, qui méritent en elles-mêmes un processus de réflexion particulier que vous allez engager et qui, aujourd'hui, est déjà bien avancé dans un certain nombre de domaines. La question, par contre, du droit commun, du droit spécifique ou spécialisée, elle est plus intéressante puisqu'elle renvoie à des modèles qui sont effectivement des modèles différents
Et en fait, là où le spécifique devrait devenir le droit commun, je m'explique. Comment peut-on laisser dans le paradoxe des individus qu'on va enfermer dans une catégorie, qui sont des individus catégories, qui sont à la fois, on leur dit à la fois, vous pouvez pas devenir quelqu'un de singulier parce que vous êtes considéré comme une personne handicapée. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin l'adjoint au maire, hein, dans sa façon de parler des personnes, hein, avec ce « on » dont on ne sait pas trop qui c'est. On voit bien finalement, on s'occupe des handicapés. On s'occupe du handicap. La personne est souvent oubliée. On a ce modèle qui nous renvoie à chaque fois à une personne qui est enfermée dans cette individualité dont il peut difficilement sortir, puisqu'en même temps, on lui refuse d'être quelqu'un comme tout le monde, d'être quelconque, d'être comme tout un chacun.
Est-ce que ce n'est pas déjà une esquisse de réponse à la question sur la confiance ? On dénonçait tout à l'heure le manque de confiance des personnes par rapport à une appropriation du projet professionnel. Est-ce que tu ne vois là peut-être quelque chose qui pourrait faciliter cette mise en confiance ?
Je ne suis pas sûr que ce soit à positionner sous ce terme-là de confiance. Alors la confiance réciproque, bien entendu, elle agit, mais elle agit dans tout acte pédagogique, elle agit dans tout acte relationnel. On avance avec quelqu'un en qui on a confiance, on avance avec un dispositif en qui on a confiance, c'est-à-dire qui ne nous ment pas, qui nous respecte, qui respecte la dignité qui est la mienne en tant qu'être humain et en tant qu'individu me permettant de pouvoir avancer dans mes propres jeux, dans mes propres stratégies. C'est ce respect qui crée la confiance.
Donc tu veux dire que le modèle que la société renvoie aux personnes handicapées reste un modèle déficitaire ?
C'est un modèle d'exclusion. D'accord. C'est un modèle exclusif par rapport à la société inclusive telle qu'on l'évoquait jusqu'à présent. Le projet de vie, cette notion de projet de vie me semble être assez intéressante justement à regarder de ce point de vue. Loi 2005, grande avancée, on a souligné les limites aujourd'hui. Projet de vie, il est largement insuffisant. Projet de vie, il renvoie, si vous voulez, de mon point de vue, à une rhétorique du besoin. Les gens ont besoin. On sait ce que l'autre a besoin. Et on va construire des dispositifs. Et je vais même plus loin, le médico-social, aujourd'hui, se retranche derrière ce besoin. Nous savons ce qui est bon pour l'autre. Nous savons répondre à ses besoins. Le projet de vie, quand je dis qu'il est insuffisant, le projet de vie ne permet pas d'exister. Exister, être pour soi et aux autres, dans une relation où je suis quelqu'un. On est largement dans quelque chose dans l'ordre de l'insuffisance avec simplement cette notion de projet de vie qui plus est renvoie aujourd'hui très concrètement à des regards. Un texte est en train de paraître ou est paru, il y a une quinzaine de jours maintenant, sur la lourdeur du handicap. Imaginez-vous qu'on vous renvoie tous les jours votre lourdeur. Imaginez dans quelle situation. On se réveille des fois le matin, vous savez, avec un petit défaut, qu'on se regarde dans la glace, ça nous bouffe la journée, on se dit « Oh merde, je suis pas beau, machin et tout, je n'ai pas la forme ». C'est une journée. Imaginez tous les jours un système qui vous renvoie cette lourdeur. Voilà, c'est ce modèle-là, qui est exclusif.
Mm-hmm. Donc on est sur des représentations collectives qui restent malgré tout, malgré les avancées de la loi sur le plan, je dirais, de l'éthique et de la philosophie, on est sur des constructions collectives qui restent de construction d'une image totalement déficitaire dépendante de la personne handicapée. Donc hier j'entendais dans le travail qui était évoqué à plusieurs reprises, quelqu'un qui disait par rapport au maintien dans l'emploi, avec des personnes qui deviennent handicapées dans l'entreprise ou qu'on accueille comme handicapées, la première question qu'on va se poser, c'est mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Dit comme ça, ça renvoie quand même une image assez terrifiante qui bloque, qui fige les systèmes. Donc est-ce que c'est juste ? Par contre, on ne peut pas nier la réalité des difficultés, on ne peut pas nier la réalité du déficit, mais il faut peut-être commencer à en parler différemment. Je sais que tu as travaillé notamment avec le Québec sur les questions de classification, Fougère-Olas et compagnie. Je sais que la FISAF, pour avoir été à l'origine de ce type de réflexion, avait beaucoup travaillé sur ces classifications. Est-ce que là-bas, on ne pourrait pas trouver les solutions, en tout cas conceptuelles, à traduire quelque part dans nos activités pour changer cette construction identitaire ?
Le problème, c'est que le modèle de la CIH, vous savez, la classification internationale des handicaps, de 1980, classification expérimentale qui n'a jamais été reconnue par l'Assemblée mondiale en son temps. J'ai été directeur pendant 14 ans du centre collaborateur. Donc je peux vous en parler avec intérêt puisque j'ai suivi tout le processus de révision de cette CIH vers la CIF. Cette classification internationale portait en elle-même un modèle linéaire. Ce modèle linéaire, c'est le modèle sur lequel nous avons construit nos représentations du rapport à l'autre. Et évidemment, ça s'est inscrit dans un processus institutionnel républicain, on va dire, où la catégorie est quelque chose qui permet d'organiser les politiques publiques. Une société inclusive aujourd'hui doit revoir, repenser la totalité de ses politiques publiques. Les politiques publiques telles qu'elles sont organisées, les représentations telles qu'on les... On arrive à les perdurer dans nos systèmes, ne peuvent plus fonctionner si on souhaite effectivement avoir une société inclusive. On est à la base des discriminations, c'est la première des discriminations, hein, c'est de refuser à l'autre d'être lui-même. Et ce processus-là, dans le cadre des modèles qui sont aujourd'hui proposés, de la CIF à la CIH, en passant par le PPH, puisque... Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a une proximité, hein, Fougérolas ayant largement travaillé en amont de cette classification, même s'il s'est fait dégager par l'OMS le moment venu pour que le modèle de la CIF soit entériné sur un modèle plutôt interactif. Les modèles sont là. La CIF n'est pas plus opératoire que la CIH, soyons clairs. On ne travaille pas avec la CIF, pas plus qu'on travaille avec la CIH. Par contre, on a là un dictionnaire nous permettant de reconstruire des outils et des représentations. Mais encore une fois, ce n'est pas en se positionnant dispositif spécialisé, droit spécifique, droit commun, dispositif de droit commun, qu'on s'en sortira. C'est ce rapport-là qu'il faut inverser. La société inclusive offre les outils de cette inversion. Simplement que ça ne peut pas rester qu'un slogan, sinon ça sera comme l'entreprise citoyenne, comme la responsabilité, la RSE, etc. C'est-à-dire que ça restera un slogan. Il faut que ce soit approprié par les acteurs. Et que cette appropriation, elle passe par de l'action. C'est-à-dire non plus être simplement enfermé dans son propre... Je ne sais pas enfermer. Le médico-social. Se réenfermer sur des inquiétudes légitimes par rapport à l'avancée des politiques publiques, telles que le président de la FISAF les évoquait tout à l'heure, dans ses questionnements, qui sont réels. Et il faut donc pouvoir arriver à s'en déborder et en sortir de façon à pouvoir réinterroger l'ensemble des systèmes sur une base différente, qui est une base où la personne, c'est pas l'autre, c'est nous. Et on sait bien que potentiellement, on appartient tous à cette catégorie de personnes handicapées. Il suffira qu'on avance un petit peu en âge, et puis même pas la peine d'attendre jusque-là. Quoi.
Eric, tu voulais réagir à ces propos?
Oui, je souhaitais réagir parce que je partage complètement la finalité du propos. C'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau de droit au savoir, on a souhaité rendre la parole aux usagers, aux étudiants, aux jeunes en situation de handicap eux-mêmes, au travers d'une grande enquête. C'est-à-dire sortir un petit peu de cette posture d'allégataire dans laquelle souvent nous sommes, que ce soit les associations, les opérateurs médico-sociaux, les mutuelles, où on décide un peu à la place d'eux. Et c'est extrêmement intéressant parce que sur un certain nombre d'enseignements, on est un petit peu mis en défaut parce que les priorités des jeunes en situation de handicap sont pas nécessairement ce que nous, on mettait en priorité. Et là... on va se retrouver dans une... Tu parlais d'injonction paradoxale tout à l'heure, Maurice. On va se retrouver dans une injonction paradoxale assez particulière avec les pouvoirs publics, parce que si le secteur médico-social veut faire cette révolution copernicienne, accompagner cette démarche un peu de la maïeutique où les personnes... accouchent de leur projet de vie et qu'on leur permette réellement de les mettre en œuvre, eh bien, comment va-t-on pouvoir innover? Comment va-t-on pouvoir accompagner et mettre à disposition les outils et les moyens pour que les personnes en situation de handicap puissent vivre leur projet de vie, mais bien le leur, alors qu'on ne peut plus innover dans le cadre de la loi HPST, puisqu'on est seulement des opérateurs où on doit répondre à des appels à projets. Là, on a une vraie difficulté.
Alors, on sent bien qu'il y a une alors, je donne volontiers la parole à Jean-Marie et je voudrais juste un propos introductif parce qu'on sent bien qu'on est nous-mêmes enfermés quasiment dans un paradoxe où à la fois on dit qu'il y a un manque de confiance de la part des personnes pour formuler leur projet. De l'autre côté, on dit qu'il faut renouveler la perception qu'on a des personnes handicapées dans notre société pour les rendre effectivement autonomes et décideuses de leur projet de vie. Et en même temps, on dit que malgré tout, il n'y a pas les moyens pour adapter l'ensemble à toutes les personnes. Là-dessus, Jean-Marie, oui, toi qui es un pragmatique.
Ouais, voilà, moi je veux parler que de l'un, hein, je veux parler que de ce que je mets en œuvre ou de ce que l'équipe avec qui je travaille met en œuvre. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur le faire, je crois que demain il y a un des ateliers qui est animé par une des personnes de l'équipe et je vous invite à l'écouter. Moi, je pense qu'effectivement, oui, ces propos qu'on évoque autour de pouvoir faire émerger le projet de vie, faire en sorte que ce handicap soit pas l'écran qui cache quelque chose, c'est vraiment, effectivement, il faut permettre dans nos dispositifs pour qu'il y ait une vraie confrontation qui s'opère. Mais on ne peut vraiment se confronter que si le risque est limité. Et quand tout à l'heure on parlait d'accompagnement, après je cherchais un autre mot et je pense que j'en ai trouvé un. Moi je vous proposerais le mot médiation. On a besoin, enfin les personnes que l'on accompagne ont besoin de cette médiation. Médiation pour pouvoir affronter l'expérience, médiation pour pouvoir accéder à l'information, médiation pour entendre ce que d'autres, comme tu dis Eric, ce que d'autres ont fait avant eux. Et cette médiation-là, ce sont les services qui sont mis en place. Je crois qu'on peut être service spécifique. De fait, mais pour autant, on va s'adresser à des personnes. Au bout du compte, ce que je dis là, c'est valable pour n'importe qui. Je crois que nos services pourraient servir à n'importe quel jeune. Absolument. Et on devrait les développer d'autant plus dans les circuits ordinaires. On voit combien de gamins, ben, puisque je fréquente beaucoup les collèges, combien de gamins dans les collèges, bon normalement, ils arrivent au bout du bout, en fin de troisième et plutôt mal que bien, et puis sachant, ben après, qu'est-ce qu'ils font? Ben ils partent après vers là où on les emmène, et on est sur un gâchis total, quoi, parce que on a des gamins auxquels on n'a pas proposé de construire un vrai projet. Et tout à l'heure, vous disiez, je ne sais pas qui d'entre vous, il faut que le spécifique devienne droit commun. Oui, tout à fait d'accord. Je crois qu'il faut de plus en plus de services spécifiques comme les nôtres pour permettre à tout un chacun de vraiment construire son projet de vie. Et ça part de loin.
Et si on arrêtait même de dire spécifique, après en redescendant sur Terre, pour dire adapté à chacun, personnalisé?
Oui, personnalisé, oui, mais à condition de permettre à chacun d'oser, de pouvoir prendre le risque. Et ça, c'est...
Après, il y a la question de financement, hein, parce que chaque...
Je ne suis pas sûr que ça coûte si cher que ça. J'en suis pas certain. On a fait, alors, ça vaut ce que ça vaut, hein. Encore une fois, mon propos, le limiter le bien à ma toute petite dimension, hein. On a fait un calcul en regardant ce que ça nous demandait l'accompagnement d'un jeune qui est en posture d'apprentissage ou d'orientation et un jeune qui est en parcours ordinaire. Ça nous coûte 4 fois moins cher. Ça nous coûte 4 fois moins cher. Mais pour le coup, il faut compter sur d'autres. Il faut compter sur d'autres. Et le médiateur en question, c'est lui qui va faire en sorte que, par exemple, puisqu'on parle du handicap, des parents qui très longtemps ont eu cette image d'un gamin qui ne pouvait pas, hein, en deçà, à qui c'était interdit du fait du handicap, tout d'un coup, on leur propose d'agir pour qu'ils découvrent chez leur gamin quelque chose qu'il peut faire.
Donc il y a une espèce de spécificité à ce niveau-là d'un accompagnement écosystémique qui ne s'occupe pas que de la personne, bien entendu, de son projet, mais de l'ensemble, en fait, de l'environnement qui est le sien. J'ai entendu dans le propos de Marc aussi quelque chose qui renvoyait à un dialogue un peu unilatéral, une condamnation de ce dialogue unilatéral entre l'expert qui sait et puis la personne qui reçoit. Isabelle, est-ce que je reviens vers toi sur cette question. Est-ce qu'on est enfermé dans ce dialogue unilatéral entre des gens qui savent et puis des gens à qui on propose?
Il y a toujours un risque, hein. Enfin, la culture des professionnels, il y a toujours ce risque. Discuter avec la personne, ça engage. Donc, quelquefois, c'est moins risqué de faire des propositions toutes faites, mais ce ne sera pas pertinent. Je pense que, par rapport à ce qu'on disait, effectivement, je pense que la question centrale, c'est la question de l'adaptation des uns et des autres, mais que c'est vraiment la question centrale. Ça prend du temps, par exemple, adapter des outils pédagogiques, mais à la situation concrète rencontrée. Mais pour les adapter, il faut bien discuter avec la personne de quoi elle a besoin. Enfin, ça n'a pas, de sens de pas. Enfin, je rejoins complètement les propos de Marc tout à l'heure. Si on ne travaille pas avec les personnes à partir de ce dont elles ont besoin là où elles sont, on ne va pas y arriver. Ça nécessite, je pense, aussi de la coopération. Entre...
Une question de dispositif qu'une question de parcours.
Oui, enfin, et de coopération. Parce qu'on n'a pas toutes les ressources en interne. On n'a jamais toutes les ressources en interne. Donc, justement, il faut lâcher. Pour lâcher, c'est déjà voir avec la personne de quoi elle a besoin et aller chercher là où il y a. Alors, je ne mésestime pas du tout les besoins financiers et sur un certain nombre de situations. Enfin, clairement, il faudrait des financements plus importants. Mais il ne faut pas tout focaliser sur cette question-là parce que ça... C'est un peu facile de dire qu'on en a besoin, c'est vrai. Au niveau des dispositifs, on n'a jamais suffisamment par rapport à tout un tas de choses. Donc c'est exact, mais on ne peut pas se concentrer uniquement là-dessus. Il y a besoin de coopération avec d'autres pour arriver à répondre aux situations.
Donc, en fait,
la seule moyen d'y arriver, c'est de partir de
la vraie idée qu'il y aurait derrière l'idée de désinstitutionnalisation, c'est de penser qu'en fait, il n'y a pas toutes les ressources dans notre secteur, et qu'il faut, dans ce travail de médiation, dans ce travail d'ouverture, aller chercher tous les compléments nécessaires ailleurs pour permettre le parcours le plus adapté à chaque personne. Et c'est un travail gigantesque quand même.
Cela dit, dit comme ça, ça fait un peu idéal, quoi.
Oui.
Donc ce qui est plus intéressant, c'est de voir concrètement comment on travaille cette question-là au quotidien. Je pense que ça va être évoqué dans les ateliers.
Donc là, on serait sur une innovation. Est-ce que vous avez l'impression, vous, acteur de terrain, que cette innovation-là est facilitée, permise?
Oui, je crois que sur la question des moyens, il y a aussi une problématique aujourd'hui, c'est que du fait de la sectorisation des financements, de ce qui relève de l'État, de ce qui relève des collectivités locales, de ce qui relève des dispositifs sociaux, et de la difficulté des finances publiques, collectives, socialisées dans laquelle on est aujourd'hui, chacun un peu se renvoie la balle. Et à un moment donné, on n'est plus dans une approche global, systémique, de savoir ce qui est le plus efficient et ce qui va coûter le moins cher, mais le Conseil général ne peut plus financer, donc il essaye de s'organiser de telle façon que le domicile de secours ne soit pas acquis, et donc que ça soit pas lui qui paye, mais celui d'à côté. On déstructure les dispositifs d'aide à l'emploi pour les étudiants handicapés, parce que la GFIP ne veut plus ou ne peut plus les financer, et on pense que les universités vont pouvoir le faire. Et on déstructure un certain nombre de services qui fonctionnaient bien pourtant. Au global, on se pose pas la question des 850 000 euros que finançait la GFIP. Est-ce que combien ils vont coûter au final, parce qu'on a des jeunes en situation de handicap qui vont complètement sortir du système de formation, qui risquent d'arrêter purement et simplement leurs études, puisque c'est quand même comme ça que ça se passait précédemment. Combien ça va coûter à la société si ces jeunes, plutôt que d'être insérés professionnellement, sont là à la hache pour la plupart, enfin pour une bonne partie de leur vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va aussi falloir, par rapport à la question de la pénurie des finances publiques, qu'on raisonne globalement, qu'on raisonne collectivement et non pas entité par entité, État contre collectivité, collectivité contre sécurité sociale, etc. Autrement, on ne s'en sortira pas.
Alors, un dernier mot, Marc, peut-être là-dessus, sur les politiques locales, non ?
Enfin, un dernier mot, simplement pour renforcer ce qui vient d'être dit sur le fait que les questions qui nous sont posées aujourd'hui, au-delà des aspects financiers, dont on peut penser malgré tout que les moyens sont là, qui ne sont pas forcément utilisés au bon endroit au moment où nous sommes. Ils l'étaient précédemment, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faut revoir ces processus et les revoir dans la concertation et pas simplement dans cette façon dont on peut avoir notamment les services de l'État d'injonction, en disant voilà, c'est comme ça que ça se passe, mais dans un dialogue démocratique, pour le coup. Et ça, je pense que cette problématique-là, elle est à réinterroger de la place des fédérations comme la FISAF, de la place des fédérations des unions comme l'UNALG et d'autres, en particulier en ce moment dans le cadre politique dans lequel nous rentrons, avec une pression forte pour que les tensions entre la gestion et le politique soient reposées de la place des acteurs dans des dynamiques qui permettent justement de redévelopper des coopérations, c'est-à-dire de fonder l'ensemble sur des idées de coopération et où les liens et les lieux soient de nouveau en maillage. Si on n'est pas, si on rentre pas dans cette perspective, on va être dans une situation telle qu'on la voit se positionner aujourd'hui de façon assez intéressante par rapport aux organismes médico-sociaux gestionnaires, à savoir, ben, on vous demande de gérer, point barre. Pour le reste, l'innovation, oui, on va définir ce que c'est un de ces jours, et puis on verra bien. Mais on voit bien qu'on nous met dans une situation qui devient insupportable.
On sent bien dans ton propos, en fait, qu'il y a une réalité technique qui semble être maîtrisée, qu'il y a une organisation administrative et financière qui crée les blocages et qu'il y a une absence peut-être, hein, là on est tous concernés, mais il y a une absence peut-être de portage politique de ces dimensions-là au plus haut niveau permettant cette concertation. Donc on peut déjà, sur ces trois piliers, essayer de d'ouvrir l'échange, puisqu'on a un tout petit peu, à moins que tu... Je sentais que tu voulais réagir.
Oui, à propos, pour prolonger ce que disait Eric tout de suite, je crois que les évaluations ne sont pas faites comme elles devraient être faites. Je pense que
les évaluations
des dispositifs, elles sont trop limitées, parce qu'en termes de coûts, il faudrait... Je pense qu'on a à la tête de notre pays des élites suffisamment puissantes pour qu'elles soient capables de mener de véritables évaluations, et pas seulement d'évaluations de la politique de telle organisation ou autre. C'est un vrai, vrai souci. Puis enfin, il y a un concept qui court depuis de nombreuses années en France, et je voulais en parler parce que moi, il me dérange beaucoup. Il est employé à toutes les sauces, c'est le fameux concept d'égalité des chances. Je crois que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que égalité des chances, ça veut dire on démonte les dispositifs. Et on va penser que tout un chacun, pour peu qu'on lui donne l'allocation adéquate, saura tout seul trouver le chemin qu'il lui faut pour l'arriver là où il veut arriver. Et je pense qu'il faut qu'on ait, nous, enfin pour le coup, tout à l'heure, tu m'as taxé un peu de société, d'organisation idéale. Non, je pense pas. Ou plutôt, si, il faut que nous construisions des cités idéales. Il faut que nous revalorisions l'utopie. Et il faut préserver ces dispositifs. Et il faut effectivement porter ce discours-là là où il doit être porté.
Alors, je suis sûr que Marc, sur cette question de l'égalité des chances, tu as envie de dire quelque chose.
Dis
des méchancetés, on a le temps jusqu'à...
Non, simplement, effectivement, c'est un concept sur lequel on peut pas créer une société qui est réductrice des inégalités. C'est impossible. Parce que justement, elle est utilisée en fonction des situations politiques à différentes sources. Donc on a un concept là qui se promène. Et j'aime à dire que finalement, l'égalité des chances, c'est un peu comme le loto, quoi. T'as pas eu de pot ce matin, désolé, mais parce que dans une dynamique de marché, c'est bien celle-ci qui s'applique. Et on voit bien qu'on n'est pas dans cette dynamique-là collectivement. Ça ne veut pas dire que le marché ne doit pas exister. Hein.
Est-ce qu'on n'est pas au cœur d'un paradoxe, c'est-à-dire d'un modèle de société qui se veut garant de droits individuels, mais pour conquérir ces droits, c'est le plus fort qui l'emporte ? Et que donc il faut véritablement être, je dirais, acculturer la société au concept d'accompagnement qu'on a développé tout au long de cette table ronde, de cet échange.
Oui, je crois que c'est complètement indispensable à un moment donné. Si on veut que chaque citoyen individuellement puisse être acteur de ses propres droits, que non seulement il en soit informé, mais que l'ensemble de son entourage soit aussi informé, organisé et structuré pour lui permettre l'expression de ses propres droits. Sinon, le principe même d'égalité et même celui de liberté n'a absolument aucun sens. Parce qu'on sera, en fonction des catégories socio-professionnelles, en fonction des catégories socio-culturelles dans lesquelles on est, l'accès à la connaissance, l'accès aux droits et à la capacité de faire vivre sa propre citoyenneté ne sera pas la même. Je vais faire une simple transposition. Et toutes les évaluations des politiques publiques l'ont démontré. Sur les discours en matière de prévention santé, on sait très bien aujourd'hui que le plan national nutrition santé... Il fonctionne très bien, mais pour les catégories socio-professionnelles les plus élevées. Pour les autres, ça fonctionne pas, parce qu'on n'a pas adapté et organisé le message pour qu'il aille dans l'ensemble de la population. Et sur les questions des droits, d'accès aux droits, d'accès à la citoyenneté, de capacité de s'insérer socialement et professionnellement, scolairement, dans les systèmes de formation, c'est exactement la même chose.
C'est pas une société. pas une société des individus. Hein, qu'on, non, c'est, on est bien sur un processus à la fois où la coopération, où l'action collective est présente et où l'action individuelle peut se réaliser pour et avec cette action.
C'est-à-dire qu'éviter la dérive du droit individuel considéré comme la lutte de chacun pour soi, il faut une intervention forte de la collectivité, de la solidarité, pour justement permettre cette égalité des chances qui n'est pas posée en préambule, mais qui est un objectif à atteindre.